Vous êtes au bon endroit à l'écoute de la Radio du Monde, RFI, 6h à Paris, 4h en temps universel. Une nouvelle demi-heure d'infos internationales et le journal avec vous, Jeanne Bartoli, bonjour.
Bonjour Vincent et bonjour à tous. Dans ce journal, la Cour d'appel de Paris envisage un procès en appel avec une décision à l'été 2026 dans l'affaire des assistants des eurodéputés du Rassemblement National. Marine Le Pen se félicite de l'annonce tout en continuant de dénoncer le verdict de son procès. Les détails dans un instant. De nouveaux droits de douane en préparation aux États-Unis, ils doivent être dévoilés ce soir et entreront en vigueur immédiatement. La Maison-Blanche ménage toujours le suspense sur les pays et les produits concernés. En Turquie, la mobilisation se poursuit 2 semaines après l'arrestation et l'incarcération d'Ekrem İmamoğlu. Un boycott à l'appel notamment des étudiants turcs. Reportage dans ce journal. Vers la détente entre Paris et Alger, on revient ce matin sur l'appel entre Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune. Et puis ils sont 12 sur la ligne de départ et le gagnant sera connu le 12 mai prochain. C'est parti pour le prix Marc Vivien Fouet 2025, le Marocain Achraf Hakimi fait figure de grand favori pour succéder à Pierre-Emerick Aubameyang. En France, Marine Le Pen salue donc une très bonne nouvelle. Hier, la Cour d'appel de Paris a indiqué avoir été saisie et dit qu'elle examinerait les 3 appels déposés dans des délais qui devraient permettre de rendre une décision à l'été 2026. Un procès en appel rapide, donc, ce qui pourrait encore laisser une possibilité à la dirigeante d'extrême droite de participer à la présidentielle de 2027, en fonction évidemment du jugement. La présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée a de son côté annoncé vouloir saisir la Cour européenne des droits de l'homme et le Conseil constitutionnel sur, je cite, l'incompatibilité entre une décision d'inéligibilité avec exécution provisoire et la liberté des électeurs qui est inscrite dans la Constitution. La condamnation de Marine Le Pen qui continue en tout cas de faire beaucoup parler à l'Assemblée avec une partie de la gauche qui tente de porter secours à l'institution judiciaire. Victorien Villaume.
Oui, la justice française est indépendante. Non, il n'y a pas de volonté de tuer le RN, défend Benjamin Lucas, député écologiste.
Pourquoi la délinquance en col blanc bénéficierait-elle d'une impunité qu'on n'accorde pas à d'autres types de délinquance? Pourquoi avoir été candidate à l'élection présidentielle donnerait-il une autorisation judiciaire de détourner de l'argent public? On parle de 10 ans de procédure.
Rendre inéligible un responsable politique n'est pas une exception française, tient également à rappeler Sandrine Rousseau, écologiste elle aussi.
Il y a eu plein de pays où il y a eu des inéligibilités. Il y a eu plein de pays d'ailleurs où les personnes ont démissionné suite à des procès. La justice n'a jugé que sur le fondement du droit français.
Alors que les 3 magistrats à l'origine du jugement se retrouvent menacés, la gauche est aussi mal à l'aise vis-à-vis de la posture de François Bayrou, soutien inconditionnel aux magistrats et en même temps interrogation autour de l'exécution provisoire. Le socialiste Arthur Delaporte.
On ne peut pas d'un côté défendre l'état de droit, la solidité de la justice et de l'autre considérer que cette situation n'est pas normale. Elle est normale parce que c'est l'application de la loi, rien d'autre.
Cet entre-deux du Premier ministre interroge au-delà du PS. Dans l'hémicycle, après son intervention, François Bayrou ne reçoit aucun applaudissement, pas même des députés de son propre camp.
Victorien Villaume du service politique d'RFI. Le Rassemblement National a annoncé un rassemblement de soutien à Marine Le Pen à Paris. Ce sera dimanche prochain. Le Rassemblement National qui dénonce une justice aux ordres, une tyrannie des juges. Alors, comment se passe chez nos voisins la nomination de ces juges en Allemagne? Ce sont les autorités régionales, les Länder, à l'exception de la Cour suprême, qui nomment les juges. Écoutez, à ce sujet, Florian Weiss, élève avocat à Cologne.
En Allemagne, le système de la nomination des juges est assez différent de la France. Il y a des élections, donc les ministres de justice doivent voter pour un juge pour qu'il soit nommé. Et il y a une exception très connue, c'est la Cour suprême d'Allemagne à Karlsruhe. On doit obtenir une majorité au Parlement allemand de 2/3 des parlementaires. Et cette majorité peut garantir une certaine indépendance des juges. Mais au passé, le public s'est posé des questions si les juges étaient vraiment indépendants. C'était le cas, par exemple, pendant le Covid, où les juges à la Cour constitutionnelle ont participé à un dîner privé avec l'ancienne chancelière Merkel. Ils ont discuté sur le confinement alors que après ils ont dû prendre des décisions sur la légalité des mesures pendant le Covid. Donc en Allemagne aussi, parfois, il y a des débats sur l'indépendance des juges.
Florian Weiss au micro de Yelena Tomic. Et on le rappelle, en France, une liste est proposée par le Conseil supérieur de la magistrature. Liste de propositions de noms pour devenir juge qui doit être validé ensuite par le pouvoir exécutif. Et puisqu'on parle justice cette fois aux États-Unis, c'est un premier revers électoral pour Donald Trump et Elon Musk, selon des projections de plusieurs médias américains. Ce matin, dans le Wisconsin, c'est une juge démocrate qui remporte l'élection pour un siège à la Cour suprême de l'État, siège que Suzanne Crawford occupera pour les 10 prochaines années. Siège important, la victoire du juge soutenu par les Républicains aurait fait en effet basculer la haute instance du côté conservateur. La justice américaine, les modes de désignation des juges, on en parle juste après ce journal. Ce sera dans l'appel correspondant. Nous serons à Washington, les États-Unis, où Donald Trump doit annoncer par ailleurs aujourd'hui de nouveaux droits de douane, dont la teneur autant que l'ampleur reste mystérieuse ce matin. Des informations de presse évoquent le spectre d'une taxe généralisée de 20%. Elles doivent être exposées ce soir à la Maison-Blanche et l'inquiétude monte, notamment pour les pays avec qui Washington, un important déficit commercial. Justine Fontaine.
Les États-Unis ont enregistré l'an dernier le plus lourd déficit commercial de leur histoire. Ils ont importé beaucoup plus qu'ils n'ont exporté, 1200 milliards de dollars de plus. Un chiffre colossal que Donald Trump voudrait résorber en poussant ses partenaires à acheter plus de produits américains qu'aujourd'hui et en encourageant la relocalisation aux États-Unis d'usines et d'activités industrielles en général. En tête des pays qui exportent bien plus aux États-Unis qu'ils n'importent, sans surprise, on trouve la Chine. Le pays porte bien son surnom d'usine du monde. L'Union européenne arrive en deuxième si on la prend dans son ensemble. L'Irlande, par exemple, avec sa fiscalité avantageuse, est en haut du classement régional grâce à ses exportations de produits pharmaceutiques. L'Allemagne la suit de près avec ses machines industrielles et ses voitures. À l'échelle mondiale, les places suivantes sont occupées par le Mexique, premier partenaire commercial de Washington, et par le Vietnam, deux pays qui exportent de plus en plus vers les États-Unis depuis la guerre commerciale entamée par Donald Trump avec Pékin lors de son premier mandat.
Justine Fontaine. L'actualité, c'est aussi plus de 1000 secouristes étrangers qui sont arrivés en Birmanie. Mobilisation internationale après l'appel à l'aide des autorités birmanes. 2700 personnes ont trouvé la mort dans le séisme de vendredi dernier dans le pays. Hier, une alliance de trois groupes armés en rébellion contre la junte a annoncé son intention de respecter un cessez-le-feu unilatéral d'un mois, et ce pour des raisons humanitaires. À l'écoute des RFI, 6 heures passées de 7 minutes en Turquie. À présent, voilà tout juste 2 semaines qu'Ekrem İmamoğlu a été incarcéré pour corruption. L'opposition qui devait manifester ce soir à Istanbul a finalement décidé de reporter d'une semaine le rassemblement. Et pour maintenir la pression sur le gouvernement, d'autres formes de contestation sont mises en œuvre, avec notamment l'arme du boycott des entreprises proches des autorités et du président turc. Un boycott qui sera étendu à l'appel des étudiants turcs, à l'ensemble de l'économie. Reportage de nos envoyés spéciaux en Turquie, Daniel Valo et Bertrand Eclair.
La scène se déroule à Istanbul à la toute fin d'une manifestation. Devant un café de la chaîne Espresso Lab, des partisans d'Ekrem İmamoğlu conspuent les quelques clients attablés en terrasse. La chaîne de restauration rapide fait partie de ces entreprises boycottées par l'opposition en raison de ses liens avec les autorités.
Il faut les boycotter parce que les propriétaires de cette chaîne sont des soutiens de l'AKP et du parti d'Erdogan. Et je ne passerai même pas devant ce café ni devant aucun des magasins qu'on boycotte.
Cet étudiant de l'université d'Istanbul a décidé lui aussi de participer au boycott, tout en s'interrogeant sur l'efficacité réelle de la stratégie.
Les partisans d'Erdogan, maintenant ils vont là pour boire leur café, alors qu'avant ils n'y allaient jamais. Du coup, ça compense leurs pertes, c'est du 50-50. Mais de toute façon, le boycott, c'est une partie de la lutte. Le boycott tout seul, ça n'est pas suffisant.
Ce mercredi, l'arme du boycott sera étendue à toutes les entreprises du pays. Les étudiants en lutte appellent les Turcs à une journée sans achat dans les magasins, les restaurants ou les stations-service. Un appel relayé par l'opposition en solidarité avec les étudiants arrêtés durant les manifestations. Bertrand Eclair, Daniel Valo, Istanbul RFI.
En plus bref, dans l'actualité à présent au Niger, la junte au pouvoir annonce la libération à venir d'une cinquantaine de personnes, dont d'anciens ministres du régime renversé en 2023 par un coup d'État, des responsables politiques, un ex-ambassadeur, un journaliste ou encore des militaires accusés de tentative de coup d'État, dont les années 2010 font aussi partie des personnes libérables, libération qui devrait, selon nos informations, être effective aujourd'hui. On en vient à la crise entre la France et l'Algérie. Est-elle en train de s'apaiser? L'entretien téléphonique entre Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune lundi soir a marqué une étape positive après des mois de dissensions, notamment autour de la question des OQTF, ces obligations de quitter le territoire français, dont le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a fait son cheval de bataille. Le président de la République a lui repris le dossier en main et il va envoyer à Alger le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. Ce sera le 6 avril prochain. Valérie Gasse.
La diplomatie a repris le dessus à force de petits pas discrets. Paris et Alger changent de ton et semblent tourner la page de la séquence des altercations publiques grâce à la réimplication directe des deux présidents. Depuis le début de l'année, Emmanuel Macron a envoyé 3 fois ses émissaires de la cellule diplomatique de l'Élysée à Alger. Leur mission, reprendre le dialogue pour sortir de la crise, symbolisée par l'arrestation de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal et le refus d'Alger de reprendre ses ressortissants expulsés de France. Plutôt que le rapport de force privilégié par le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, Emmanuel Macron a choisi la négociation en coulisses. Un désaveu pour son ministre, une méthode différente à tout le moins qui sera jugée sur les résultats en matière de réadmission, de coopération migratoire et sécuritaire, autant de sujets prioritaires pour Bruno Retailleau, mais aussi concernant le sort de Boualem Sansal, condamné à 5 ans de prison, sur lequel Emmanuel Macron attend un geste de son homologue, une grâce pour manifester de la sincérité de la reprise du dialogue franco-algérien.
Valérie Gasse, chef du service politique d'RFI. C'est une nouvelle loi en Belgique contre le tabagisme. Depuis hier, les vendeurs de tabac doivent obligatoirement cacher tous les produits liés au tabac. Cigarettes, vapes, sachets de tabac doivent désormais être rangés dans des armoires, des tiroirs ou des pièces séparées. Elena Loison, les buralistes se préparent depuis plusieurs jours à ce qu'ils vivent comme une petite révolution.
Oui, dans son bureau de tabac près du quartier européen, Camille a pris les devants. Depuis plusieurs jours, les cigarettes sont cachées derrière un rideau noir scotché aux étagères.
C'était facile et rapide. Pour l'instant, on met les rideaux et puis dans le futur proche, on verra comment on va faire. Maintenant, il y a des gens qui vendent des armoires à cigarettes, etc. Ça coûte des 2000, 3000, 4000 euros. C'est un investissement inutile.
Après quelques jours de pratique, le buraliste ne voit dans cette mesure que des inconvénients.
C'est chiant. C'est vraiment pas pratique, surtout quand on a beaucoup de clients. Avant cette règle, les gens venaient en 2 secondes, c'est fait. Je donne le paquet, ils payent et ils partent. Maintenant, je dois ouvrir, chercher le paquet, donner et je perds beaucoup plus de temps.
Du côté des clients, on doute un peu de l'efficacité de la mesure.
Je trouve pas ça mal dans un sens, parce que c'est vrai que le public un peu plus jeune, c'est un petit peu flûtanté, je pense. Quand c'est visible, donc je suis quand même d'accord, mais en vrai, c'est interdit à la vente des plus jeunes, donc en soi, voilà.
La Belgique s'est inspirée des Pays-Bas, où les cigarettes doivent être cachées depuis 2021. La mesure s'inscrit dans un grand plan de santé publique qui vise à réduire l'entrée dans la cigarette des 15-25 ans. Dans le cadre de ce plan, la vente de tabac en grande surface est également interdite à partir d'aujourd'hui. Elena Loison, Bruxelles, RFI.
Enfin, ils sont 12 sur la ligne de départ et le gagnant sera connu le 12 mai prochain. C'est parti pour le prix Marc-Vivien Fouet 2025. Comme chaque année, RFI et France 24 distinguent le meilleur joueur africain de Ligue 1. Le Marocain Achraf Hakimi fait figure de grand favori pour succéder à Pierre-Emerick Aubameyang. Le portrait du défenseur marocain du PSG et des 11 autres joueurs nommés sont à retrouver sur notre site rfi.fr.
Jeanne Bartoli.
Et vous restez avec nous. 15 minutes d'infos à suivre sur la radio du monde. On vous emmène dans un instant à Taïwan pour parler des semi-conducteurs, ces puces essentielles au commerce mondial. Nous serons aussi à Washington. Il sera question de justice et de nomination des juges sur place. Le Conseil Santé avec Caroline Paré. Et puis l'invité culture, le réalisateur Jean-Claude Barny qui signe Fanon Biopic, premier biopic sur la vie de Frantz Fanon. C'est un méga investissement qui fait beaucoup parler à Taïwan. Le leader mondial taïwanais des semi-conducteurs, TSMC, a annoncé le mois dernier 100 milliards de dollars d'investissement aux États-Unis et la construction de 5 usines de dernière génération sur place. Or, Taïwan produit actuellement 90% des semi-conducteurs de pointe de la planète. Et certains voient donc se voient dans cette industrie une sorte d'assurance-vie du territoire face aux ambitions territoriales de la Chine à Taïwan. C'est un reportage de Nicolas Roca.
Au Lifa Yuan, le Parlement taïwanais, les débats autour des 100 milliards de dollars d'investissement de TSMC aux États-Unis sont houleux. Depuis l'annonce effectuée début mars à la Maison-Blanche, l'opposition est vent debout. Chan Su, directeur adjoint des affaires internationales du Kuomintang.
La plupart des Taïwanais sont inquiets que cet investissement puisse nous priver de l'avantage dont on dispose dans le domaine des semi-conducteurs de dernière génération et que ce genre d'investissement porte atteinte à la sécurité nationale.
Si Donald Trump, qui a longtemps accusé Taïwan de voler le marché des semi-conducteurs, n'a plus besoin des puces taïwanaises, alors pourquoi défendrait-il l'île ? Réponse dans les couloirs de l'Assemblée de Robert Tsao, milliardaire, créateur d'UMC, une autre entreprise de semi-conducteurs.
L'investissement de TSMC a été fait à l'invitation de Donald Trump. C'est un signe très positif pour consolider la relation entre Taïwan et les États-Unis.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir les technologies les plus avancées quitter Taïwan pour les États-Unis ?
Non, cela va rester dans l'entreprise. N'importe quel développement aux États-Unis peut être utilisé à Taïwan. Tout cela va rester à Taïwan. C'est du n'importe quoi.
Au cœur des débats, les dernières générations de puces, le gouvernement taïwanais a assuré qu'elles ne seraient pas produites aux États-Unis. Pour l'instant, elles sont surtout manufacturées dans le grand parc industriel de Hsinchu, à une heure au sud de Taipei, la capitale. C'est là qu'est né le géant des semi-conducteurs, TSMC. Ces puces qui permettent à nos téléphones, ordinateurs et voitures de fonctionner sont fabriquées dans d'immenses usines frappées du logo rouge de l'entreprise taïwanaise. Un chantier permanent. À chaque nouvelle génération de puces, une nouvelle usine voit le jour. L'entreprise a accepté de nous accueillir dans son musée, mais ne répond pas à nos questions et interdit tout enregistrement sonore à l'intérieur. Alors pour briser ce culte du secret, il faut se tourner vers les anciens employés.
Ces puces vont être très proches technologiquement de celles produites à Taïwan. Taïwan commencera sûrement la production avant, mais cela prendra peu de temps pour transférer la production aux États-Unis.
Conrad Yong est un ancien directeur de la recherche et du développement à TSMC.
En un sens, cela réduit l'effet de protection du bouclier. Mais est-ce que TSMC veut être un bouclier ? Je ne sais pas.
Avec 40 000 emplois bientôt créés aux États-Unis, TSMC a au moins offert à Donald Trump un argument de poids pour défendre Taïwan auprès de ses électeurs. Nicolas Roca, de retour de Hsinchu, RFI.
Place à l'appel correspondant sur RFI. Depuis la condamnation de Marine Le Pen à une peine de prison et d'inéligibilité dans l'affaire des assistants parlementaires du Rassemblement national au Parlement européen, la question du mode de désignation des juges revient dans le débat public. En France, une liste proposée par le Conseil supérieur de la magistrature doit être ensuite validée par le pouvoir exécutif. Dans d'autres pays, et notamment aux États-Unis, c'est un peu différent. Bonjour Guillaume Nodin.
Bonjour.
Aux États-Unis, il y a d'abord, Guillaume, deux systèmes judiciaires parallèles.
Oui, il faut bien distinguer le système fédéral et le système local, celui des États fédérés. Dans le système fédéral, le système national, c'est le président qui désigne les juges fédéraux, ainsi que les juges des cours d'appel fédérales et les juges membres de la Cour suprême, avec ce bémol néanmoins, c'est que ces juges doivent être confirmés par le Sénat. Ces audiences de confirmation sont particulièrement suivies dans le cas des juges à la Cour suprême. En principe, ces juges sont nommés à vie, et il est extrêmement rare que cela se passe autrement. Une fois nommés, ils ne peuvent être remplacés que par une procédure de destitution. C'est une procédure complexe et rarissime. Il y a quelques jours, Donald Trump a réclamé la destitution d'un juge qui avait bloqué l'une de ses décisions et il s'est vu recadré par le président de la Cour suprême qui lui a rappelé que ce n'est pas comme cela que ça se passe aux États-Unis. La nomination des juges dépend donc directement de l'exécutif et les présidents se dépêchent quand ils en ont l'occasion de nommer des juges favorables à leurs idées à tous les niveaux.
Et à cela s'ajoute, Guillaume, des juges locaux dans chaque État.
Oui, et là, c'est pareil. Il y a le niveau local, puis les cours d'appel, puis la Cour suprême de l'État, et la procédure de nomination dépend des États. Cela peut être, comme sur le modèle fédéral, l'apanage et le droit du gouverneur de l'État, avec l'approbation des chambres locales. Cela peut aussi, comme cela vient de se faire pour la Cour suprême du Wisconsin, se faire par une élection avec plusieurs candidats, en général deux, puisqu'on est aux États-Unis dans un système bipartisan, où chaque personne candidate à une fonction affiche clairement sa couleur politique, démocrate ou républicain.
Alors Guillaume, la question qui se pose, est-ce que le système américain est plus démocratique ?
Eh bien, il y a plusieurs manières de le voir. On peut considérer que c'est plus démocratique puisque les juges procèdent des électeurs, soit ils sont élus au suffrage universel direct, soit ils sont nommés par quelqu'un qui est élu au suffrage universel direct. Mais il y a le revers de la médaille, c'est que ça donne une justice qui est clairement politisée. Par exemple, quand des groupes anti-avortement veulent faire progresser leur cause, ils vont à dessein choisir des juridictions où les juges en première instance et en appel sont connus pour leur position conservatrice. Et c'est le cas jusqu'au plus haut sommet de la hiérarchie judiciaire, puisqu'il y a une majorité de 6 juges conservateurs contre 3 juges dits libéraux à la Cour suprême. Et cela ne change pas facilement, puisque ces personnes sont très souvent nommées à vie.
Et Guillaume Nodin, en ligne avec nous de Washington, c'était l'appel correspondant sur RFI. Il est l'auteur d'une œuvre magistrale sur le colonialisme, Les damnés de la terre, paru en 1961. Le psychiatre martiniquais Frantz Fanon, figure de la lutte anticoloniale, fait l'objet d'un premier biopic, un film biographique focalisé sur ses années algériennes. Le film Fanon, réalisé par Jean-Claude Barny, sort en salle cette semaine en France. Jean-Claude Barny, qui est l'invité d'Elisabeth Le Quéré.
Jean-Claude Barny, bonjour.
Bonjour.
En quoi c'est important de parler aujourd'hui de Fanon?
Pour moi, ce qui était vraiment important, c'est de partager une parole qui manque à notre société. Fanon, c'est un peu ça. C'est le fait d'avoir discrédité sa parole, d'avoir moins eu envie de le mettre au centre de plusieurs débats qui étaient nécessaires dans son travail. Mais aujourd'hui, ce manque est flagrant.
La pensée de Fanon, vous l'avez découverte quand? Alors, j'étais jeune, je crois.
Oui, j'étais adolescent et je vais avoir 15-16 ans. Et puis moi, j'habitais une banlieue Argenteuil et il y avait une bibliothèque où on avait accès librement.
Mais quand on a 15 ans, on se jette pas forcément sur Fanon?
Non, c'est vrai. C'est que quand on a 15 ans, on se bat avec tout ce qui arrive parce qu'on est en échec scolaire, on est brutal, on se fait brutaliser. Et puis à un moment, il y a un bibliothécaire qui me tend un livre et qui me dit « Bon voilà, il y a peut-être que ce livre va t'intéresser. » Et puis moi, quand j'arrive, quand je lis ce livre-là, je me dis mais c'est d'une clairvoyance. C'est ça la vision de Fanon, c'est qu'il nous prépare à évoluer dans une société qui est fracturée et qui n'est pas forcément bienveillante.
Faire sauter le monde colonial est désormais une image d'action très claire, très compréhensible et pouvant être repris par chacun des individus constituant le peuple colonisé. Détruire le monde colonial, c'est ni plus ni moins abolir une zone, l'enfouir au plus profond du sol ou l'expulser du territoire.
Votre film commence quand Fanon arrive en Algérie, en l'occurrence à l'hôpital de Blida. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est-à-dire que Fanon est très partagé. D'un côté, il est par le titre français, hein, puisqu'il est directeur de l'unité psychiatrique de l'hôpital. De l'autre, par le cœur, il est vraiment proche des Algériens.
Fanon n'a jamais renié le fait qu'il était citoyen français, mais il n'est pas d'accord avec toutes les actions que mène la France. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas vide de sens, il arrive déjà avec un vrai parcours par le fait qu'il est martiniquais et qu'il a déjà connu ça. Il connaît le sang, il connaît le cannibalisme, le vampirisme que porte l'accusation dans son sein. Et ce qu'il n'a pas réussi à faire en Martinique, il va le faire avec l'Algérie. Et il va combattre.
Quand il arrive en Algérie, en 1953, il est médecin psychiatre à l'hôpital de Blida, mais très rapidement, il va s'engager auprès du FLN. Et en fait, le film tresse un peu le tout, c'est-à-dire ses activités de psychiatre, ses activités clandestines auprès des malades du FLN, et puis aussi sa pensée, puisque c'est en Algérie qu'il écrit Les damnés de la terre.
Fanon a cette faculté de pas voir la couleur. Il parle d'être humain avant tout. Et il soigne les uns comme les autres, mais avec quand même une détermination de pas laisser le colonisé seul face aux colons.
Jean-Claude Barny, est-ce que Fanon, aujourd'hui, c'est une figure encore très connue?
C'est le premier film français de cette envergure, mais il y a une sorte d'aberration entre les remontées de terrain et la situation dans laquelle l'industrie se positionne. Les remontées de terrain, c'est que toutes les salles dont nous avons projeté ce film, c'est complet. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont curieux de ces travaux. Et de part et d'autre, c'est qu'il y a aussi un mécanisme de rejet industriel qui n'a pas envie de proposer à ses citoyens des postes de réflexion pour en discuter, déjà simplement. Et ça, c'est notre métier, chacun d'entre nous. C'est notre métier, c'est de titiller la société, de lui proposer des fois des projets, littérature, musicale ou cinématographique. Nous, on se bat pour ça.
Jean-Claude Barny, merci beaucoup.
Merci beaucoup de nous avoir reçus.
L'invité d'Elisabeth Le Quéret, entretien que vous retrouvez sur RFI.fr. Et puisqu'on parle cinéma, cette annonce ce matin, le New York Times annonce la disparition de l'acteur Val Kilmer, connu notamment pour ses rôles dans les films Batman Forever et The Doors. Il est décédé à Los Angeles à l'âge de 65 ans.
Le Conseil Santé avec Suno Assurance.
Et Caroline Paré qui nous parle ce matin de santé cardiaque.
Professeur Jean-Noël Fabiani-Salmon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'ancien chef du service cardiovasculaire à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. L'âge, le vieillissement, c'est un facteur de risque pour la santé du cœur. Comment l'expliquer ?
Et parce que tout ce qui travaille énormément finit quelque part par se fatiguer. Et en particulier un organe qui, par exemple, fait plus de 4000 battements tous les jours et qui va, au cours de votre vie, faire 3 milliards de battements sans jamais s'arrêter, sans jamais faire de pause. Parce que s'il fait une pause, malheureusement, c'est la mort. Eh bien, il finit par se fatiguer. Donc, en effet, l'âge peut être une cause de vieillissement de l'organe.
Et quels sont ces signes d'alerte d'un cœur qui fatigue, des symptômes qui doivent pousser vraiment à consulter sans délai?
Alors, ce qu'on appelle habituellement cette fatigue, c'est ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque. Et l'insuffisance cardiaque, ça se traduit par un cœur qui grossit pour pousser le plus possible, mais qui en même temps est moins efficace. Autrement dit, le retour veineux va moins bien se faire, donc on va avoir tendance à avoir les mollets qui gonflent, c'est de l'œdème. On a tendance aussi à être essoufflé parce que le poumon n'est plus drainé comme il le faut. Et tous ces signes doivent alerter parce qu'ils sont extrêmement insidieux. Et à partir du moment où on a les mollets qui gonflent, qu'on a essoufflé, qu'on est fatigué, eh bien on doit consulter un cardiologue qui va vous donner des médicaments qui maintenant sont de plus en plus efficaces.
Merci professeur Fabiani Salmon. Vous êtes l'auteur du livre « Votre cœur, cet inconnu » publié aux éditions Albin Michel. Aujourd'hui dans Priorité Santé, à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, on donne la parole à des spécialistes qui prennent en charge des personnes concernées par ces troubles du neurodéveloppement, pédiatres, psychologues, éducatrices spécialisées, explications, accompagnement, inclusion, témoignages, à retrouver à 9h10 et 1h10, temps universel, à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
Et rendez-vous tout à l'heure, c'était Caroline Paré pour le Conseil Santé. Vous restez avec nous, le journal dans quelques minutes, ce sera avec Nemo en piste, mais avant un peu de musique et un extrait du concert RFI live acoustique à la salle Playel, Tiken Jaffa Coli. On écoute Tonton d'América.
Tonton d'America, Tonton d'America, Tonton d'America, Tonton d'America. Il est arrivé en club Benz avec un drapeau. Voici du riz, il ne colle jamais. Il ne nous restait plus que la peau sur les os. Alors distribution de Dakar à Lomé. C'était du riz longrin américain. Des sacs partout, mais pas un seul bouquin. Les hommes ont dit, puisque c'est dans les colis qu'on trouve à manger, nous on reste au lit. Il nous a donné la recette du bonheur. Il nous a même donné l'heure.
Tonton d'Amérique.
Aïe, aïe, aïe.
Tonton d'Amérique.
Aïe, aïe, aïe. Il est arrivé habillé comme un cow-boy. Il était beau comme un paquet de clopes. Avec dans sa haute la dernière Game Boy et des jouets de toutes sortes. Des jouets qui valaient une fortune et une fusée pour aller sur la lune.
Oh. Tonton d'Amérique.
Oh. Quand les puces se sont usées, le cowboy a repris sa Game Boy.
Il a dû au
un Tiken Jaffa Coli. Tonton d'América, extrait du concert RFI live acoustique à la salle Pleyel. Merci d'écouter la radio du monde ce matin. Dans 30 secondes, c'est le journal. Ce sera avec Nemo en Peace.
Pourquoi RFI dit ça ? Juliette Rangeval.
Les journalistes ressentent-ils la fatigue informationnelle ? Mauvaises nouvelles, réseaux sociaux et écrans omniprésents, comment séparer vie privée et vie professionnelle ? Quelle stratégie adopter pour éviter un impact trop fort sur la santé mentale ?
Écoutez « Pourquoi RFI dit ça ?» avec Juliette Rangeval, tous les vendredis à 19h41 sur RFI.